Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Napoléon et De Gaulle.
Nous traversons une mauvaise passe. Et c'est pourquoi j'ai cru utile au pays de dire ce que j'ai dit. Maintenant, je vais rentrer dans mon village et je m'y tiendrai à la disposition du pays. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Le général en 1958. De Gaulle et pareillement les gaullistes, s'il en reste, apprécient modérément le rapprochement avec Napoléon. Et ils ont en effet bien des raisons de marquer l'écart qui sépare les deux hommes. Un exemple, qui n'est pas des moindres. De Gaulle appartenait à la lignée des grands ministres calculateurs de la monarchie. Il n'avait pas du tout pour la guerre l'ardeur sans mesure de Napoléon. Qu'importe, le rêve d'assister à un rendez-vous entre le grand Charles et le petit caporal continue d'exciter l'imagination ou les regrets de nombre d'entre nous. Certes, quelques-uns demeurent rétifs. Considérant l'histoire d'abord au prisme des libertés, ils sont condamnés à rester une minorité. Reste à rendre possible aujourd'hui la rencontre. Où est aujourd'hui la place des héros qui permettrait de l'organiser? Et quelle fécondité attendre de cette rencontre? La condition du politique a tellement changé, son efficacité s'est tellement dégradée. Oui, on aime encore De Gaulle, mais un peu comme on aimait Pétain après Verdun. Une grande ombre protectrice plus que créatrice. Oui, on adore Napoléon, mais sans croire nécessairement à la possibilité d'une action qui remodelerait la société. C'est à se demander s'il ne vaudrait pas mieux organiser le face-à-face des deux phénomènes au cimetière des héros.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Question que se pose Patrice Guénifet, bonjour.
Bonjour.
À la fin d'un grand livre qui sort chez Perrin, Napoléon et De Gaulle, deux héros, enfin je dis un grand livre, je le dis assez rarement, c'est une sorte d'opéra, c'est composé avec une ouverture, des actes, un final, ou alors un pic, mais vous savez, un pic avec des voies d'accès différentes.
Avec plusieurs
pentes. Oui. Mmh. On va prendre les moins difficiles.
Oui, volontiers.
On n'a
oui.
pas la formation que vous avez et l'équipement de cordée qui serait nécessaire. Mmh. On peut commencer par le thème de l'entrée en lice des deux personnages. Il entre en lice très vite, Bonaparte, Dieu merci, la Corse l'a rejeté.
Oui, il a eu beaucoup de chance dans son malheur, puisque son ambition était en Corse. Il rêvait de devenir le grand homme de l'histoire corse après Paoli. Et ses ambitions ont échoué, il a été rejeté par les Corses. Et de ce fait, les Corses lui ont donné, bien malgré lui, bien involontairement, un grand destin national sur le continent, où il arrive au bon moment. Quand on a son âge, il arrive au moment où la révolution bat son plein, où la guerre contre l'Europe commence, et donc où se multiplient les opportunités pour quelqu'un de bien doué comme il l'est.
Parce que longtemps, la Révolution française cherchait des représentants. On va l'entendre ici, Bonaparte, jeune commissaire à l'artillerie, arrivé au siège de Toulon, où les Anglais mettent en difficulté les représentants et puis les obscurs généraux de la Révolution. C'était quand même ça l'idéal à l'époque du début de la Révolution.
Oui,
il n'y avait pas de nom propre.
Il n'y a pas de nom propre, puisqu'on a ce projet, cette ambition, cet idéal que le peuple se gouverne lui-même au moyen de représentants anonymes, le plus anonyme possible.
Nous sommes en septembre 1793 dans le film de Sacha Guitry.
Chef de bataillon Bonaparte.
Salicetti, votre compatriote.
Robespierre le jeune.
Gasparin, tous trois représentants du peuple.
Général Carto.
Général Dutheil.
Général Dugommier.
Vous n'êtes pas sans savoir dans quelle situation difficile nous nous trouvons. Or, nous avons reçu de Paris des instructions qui vous concernent. Avez-vous une idée, une opinion, ou artilleur?
J'ai même un plan.
Déjà?
Ne tenant compte d'aucune considération. J'estime qu'il faut placer cette nuit même une batterie sur la hauteur de la Garenne.
Singulière idée.
Je ne la crois pas mauvaise. Ayant pour objectif la prise du fort de Magrave et celle du fort de l'Aiguillette.
Oh, jeune homme, vous allez un peu vite en besogne.
Il ne m'apparaît pas qu'il y ait du temps à perdre. Il faut qu'avant 6 semaines, j'ai ici plus de 100 canons. Ah, et puis il faut me laisser faire. Vous êtes peintre, mon général. Faites des natures mortes. Mais je vous en conjure, laissez-moi travailler.
Vous vous êtes déjà battu?
Non, pas encore. Mais je sais qu'il n'y a pas de victoire possible sans unité de commandement.
Nous vous donnons le commandement.
Voilà, je suis le nom propre, je suis le héros, le moment est en quête de héros.
Oui, tout à fait. Et on peut dire que le problème, c'est que la Révolution française qui récuse les héros, qui voudrait un monde sans héros, où chacun serait une sorte de héros, chaque citoyen, en même temps n'en finit pas de faire surgir des héros. Des héros politiques d'abord, Robespierre, Danton, Mirabeau, Lafayette, etc. Et des héros militaires ensuite. Quand la politique s'abîme dans la terreur, il perd son prestige, sa considération, le pouvoir qu'on lui prête, ce sont les victoires des militaires qui prennent le relais. Et comme les victoires de Bonaparte sont les plus époustouflantes à l'époque, les plus nombreuses, les plus rapides, elles s'enchaînent à un rythme effréné, c'est lui qui va rafler la mise et qui va précisément incarner cette figure de héros symbolisant la France nouvelle, mais en même temps la rattachant par le biais de l'épopée militaire à la France du passé. Et c'est là où va se nouer son destin historique et pour lui la chance de s'imposer comme l'héritier de la Révolution.
Alors on continue notre exercice de vie parallèle, Napoléon de Gaulle. L'entrée en lice du général. Le général va attendre longtemps. Il n'est encore que colonel en 1940, puis général de brigade à titre provisoire. Et puis surtout, il n'est pas à l'unisson de son temps, en fait, dans les années 20 et 30. Il est en opposition avec son temps, il est un acteur en quête de rôle.
Oui, tout à fait. Il a comment dire la conscience d'un destin très tôt, ce que n'a pas Napoléon. Napoléon prend conscience de son destin à mesure que son destin se forge. Alors que de Gaulle a la conscience qu'il sera peut-être, il l'espère, amené un jour, comme il dit, à rendre un signalé service à la patrie. Et il endosse ce costume et il adopte cette posture dans les années qui précèdent, depuis les années 20 en fait. Donc bien avant que l'histoire passe à sa portée. S'il n'y avait pas eu 40, il aurait continué à jouer ce rôle, mais sans emploi, puisque l'histoire n'aurait pas été là. C'est un peu ce qu'il y a à la fois de plus mystérieux chez De Gaulle. Au fond, c'est plus difficile de comprendre De Gaulle que de comprendre Napoléon. Napoléon est le fruit des circonstances. De Gaulle les attend et les appelle.
Et puis il se met en travers de l'époque, mai 1940, le front est enfoncé et il est là, à la tête de quelques chars qu'il tente de rassembler. Nous sommes dans l'Aisne, la fameuse bataille de Montcornet.
Mon colonel, je suis entré en contact avec le commandant Delvaux. La colonne s'est mise à l'abri à la hauteur du village de Machecourt pour éviter des pertes excessives.
À l'abri ? Des pertes excessives, bon sang, mais ce commandant est devenu fou! Rappelez-le immédiatement!
La communication a été coupée, mon colonel! J'ai essayé de la rétablir, je pense que le commutateur a sauté!
Allons-y!
La départementale à droite. Des inconscients. Des lâches. À peine quitté la maison, ils n'ont qu'une idée en tête, rentrer chez eux. À gauche. Non, pas celle-ci, la prochaine.
Et voici mon colonel.
Regardez-moi ça. Regardez-les.
Embarquez immédiatement! À mon poste! Embarquez!
Embarquez!
Dispositif d'attaque! À vos postes! Immédiatement!
Le grand charme, le téléfilm de Bernard Stora avec Bernard Farcy. Alors je sais que les circonstances ne sont pas faciles. Napoléon en a rarement traversé d'aussi délicates d'ailleurs. 1940, Napoléon n'a pas vraiment connu. Mais il a quand même pas une manière très accommodante de traiter ses hommes, le grand Charles.
Non, on lui a toujours reproché un caractère hautain et cassant, déjà quand il était élève à l'école militaire ou à Saint-Cyr. Et de ce fait, il n'a pas changé par la suite. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, au fond, il avait pensé la guerre qui venait avant qu'elle ait lieu. Et il avait écrit vers l'armée de métier où il décrivait à peu près exactement ce qu'allait être l'offensive des chars allemandes. Il a cherché à convaincre les politiques d'adopter ces recommandations pour la réforme de l'armée française. Il n'a pas été entendu. Donc il y a beaucoup d'amertume dans ses réactions en 1940. Parce qu'il voit une armée qui n'est pas prête à mener le combat, démoralisée, etc. Alors qu'il a passé des années à prévenir de ce qui allait se passer. Mais en même temps, il y a ce caractère cassant qui ajoute à son désappointement, à son désespoir d'une certaine façon face à la débâcle, et qui fait qu'aucun de ceux qui ont servi sous ses ordres à ce moment ne le rejoindra à Londres. Ce qui est quand même quelque chose de significatif. Et il a commandé à beaucoup de gens, pas un seul n'est venu à Londres avec lui.
Mais Napoléon, lui, il aimait les hommes. Il aimait l'armée comme une famille,
oui.
Il aimait la guerre.
Les deux. Il aime l'armée, c'est sa famille. C'est vraiment là où il va trouver un milieu à sa convenance. D'ailleurs, dès avant la Révolution française, dans l'armée royale, puis dans l'armée révolutionnaire, il a une forme de simplicité dans le contact avec les hommes. Autant il se méfie des officiers, des généraux, autant il est familier avec les soldats.
Cependant, il y a quelques officiers. Mmh. Vous traitez de son rapport particulier avec Lannes, de son rapport particulier avec Duroc.
Voilà,
lesquels il a peut-être eu une amitié.
Une amitié, c'est un bien grand mot. De ce point de vue, il est comme De Gaulle. Ce sont des hommes sans amis. Mais il a eu de l'affection pour Lannes et pour Duroc, et généralement pour ceux qui étaient là au tout début de son aventure, c'est-à-dire à Toulon. À Toulon ou en Italie. Et il s'est lié avec eux, ils ont été les fidèles parmi les fidèles. Donc il a une forme d'affection. Mais il n'a jamais eu de rapport aussi direct qu'il avait avec la troupe. Parce que ce qu'il permettait à la troupe en termes de familiarité, jamais il ne l'aurait permis aux officiers dont il se méfiait, bien évidemment. Mais il a une forme de contact spontané avec les soldats parce que c'est sa famille et parce qu'il aime la guerre. C'est un homme qui s'épanouit dans la guerre. De Gaulle, c'est pas du tout le cas. De Gaulle a connu les tranchées, il a connu la guerre de 14, il a vu quelle horreur c'était. Il a connu la guerre moderne, c'est-à-dire la guerre atroce, la guerre de massacre. Et il n'a pas de sympathie ou d'amour de la guerre. Et au contraire, c'est un partisan de la guerre limitée. Du retour aux guerres d'avant 1914. Et s'il propose les blindés, c'est précisément pour ça. Pour sortir de la guerre de massacre, c'est-à-dire de l'affrontement armé contre armé. Alors que Napoléon n'a connu que des guerres à l'ancienne, des guerres avec des charges de cavalerie, des guerres en plus au début avec des petites armées. 25 000 hommes, 30 000 hommes en Italie. Donc un type de guerre héroïque tout à fait différent.
Il est à l'aise avec les plus petites armées, au
oui.
fond, Napoléon.
Oui,
vous dites, c'est curieux,
par la suite. Ouais.
La grande armée n'est plus ce qu'elle était en 1812, parce qu'elle était composée de beaucoup de supplétifs, de nouveaux venus. Il a été plus à l'aise en 1814, quand il était avec un carré plus restreint.
Voilà.
Mais ça veut dire aussi qu'il avait sacrifié les hommes de la première grande armée, 1805.
Oui, il
sans
a un
problème.
Contact facile avec eux, mais on peut pas dire qu'il ait une compassion ou une empathie énorme vis-à-vis d'eux. Les pertes ne l'ont jamais chagriné. Maintenant, quand il fait la tournée des popotes la nuit avant la bataille, là, il sait parler aux soldats. Il s'assied avec eux, il partage le pain, un verre de vin, il discute, etc. Il a cette forme de familiarité que n'a pas De Gaulle, qui a une distance dans toutes les circonstances de sa vie, d'ailleurs.
Mais cette île alboise de Pontoise, Seine-et-Oise, Michel Simon, dans le film d'Abel Gance, face au petit caporal Pierre Mondigue, il sera sacrifié.
Ils ronchonnent tous derrière vous, les autres. Il n'y en a pas un qui ose vous le dire. Et entre nous, on vous appelle le petit tondu.
Bon, eh ben, va pour le petit tondu. Et je voudrais bien savoir ce que tu me reproches, Malboise.
Non, pardon, Alboise de Pontoise, Seine-et-Oise. Ce que je vous reproche, c'est que nous, de la vieille garde, on ne fout plus rien. Alors que la Rivoli, ça ressemblait encore à du service. Mais après,
tu vas retourner chez toi, hein? Tu es trop vieux.
Ah. Ne m'insultez pas, Majesté. Il n'y a pas d'âge pour vos soldats.
C'est pas un homme, ça, c'est un grognard.
Un gros quoi?
Si un homme qui grogne comme toi, on devrait appeler ça un grognard.
Alors ça, c'est trop vieux. Un grognard. Ça vaut presque... Le petit tondu.
Mes enfants dans ce village, suivi de roi, il passa. Voilà bien longtemps de ça, je venais d'entrer en ménage. À pied grimpant le coteau, où pour voir je m'étais mise. Il avait petit chapeau avec redingote grise. Près de lui je me troublais, il me dit bonjour ma chère. Bonjour ma chère, il vous a parlé grand-mère. Il vous a parlé.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Il vous a parlé grand-mère, c'est la chanson numéro 1 de la légende napoléonienne, la chanson de Béranger, ici aux remises au goût du jour, par Jean-Louis Murat. Nous parlons de Napoléon et de De Gaulle, nous tentons un exercice de vie parallèle avec Patrice Guénifet qui publie chez Perrin un livre sous ce titre, Napoléon, De Gaulle, deux héros français. On prend quelques thèmes, celui du retour. On va parler du retour de 1815 et du retour de 1958. De Gaulle à Colombey, il se fait difficilement à la solitude. Il répète que les Français ne le méritent pas. Napoléon à l'île d'Elbe, il y a quand même un peu plus de ductilité. Il s'adapte.
Il s'adapte, c'est dans son tempérament. Il pense que sa carrière n'est pas finie et qu'en tout cas elle ne peut pas finir comme ça en souverain, comme disait Chateaubriand, d'un carré de légumes. Donc un jour ou l'autre, il guette les circonstances, il s'informe sur ce qui se passe sur le continent, mais il s'adapte, il joue au prince de l'île d'Elbe, donc il fait construire des routes, il organise des réceptions, il se préoccupe de choses minuscules. Quand on a gouverné l'Europe, se retrouver roi de l'île d'Elbe, c'est bien sûr un grand changement, mais
alors,
il s'adapte.
Vous êtes allez, vous, à Portoferraio, vous êtes assis dans la stalle qui est creusée dans le mur de soutènement du jardin, du palais, du petit palais de Napoléon. Voilà, c'est un très bel endroit d'où on voit...
On voit effectivement l'Italie, et si on va un peu plus loin, on voit la Corse. Donc c'était très imprudent de le mettre là, puisqu'il est, ça lui rappelait en permanence le souvenir de son incroyable aventure.
Donc c'était le joueur qui attendait son tour.
C'est le joueur, c'est un joueur fondamentalement. C'est quelqu'un qui a pris assez tôt la conscience qu'il avait un destin sans pareil, et qui guette les circonstances d'ajouter toujours un nouveau chapitre à son destin. Et lorsqu'il va revenir de l'île d'Elbe pour reconquérir le pouvoir en 20 jours d'un retour triomphal sur Paris, le vol de l'aigle de clocher en clocher, eh bien ça sera avec l'idée qu'il va ajouter un chapitre peut-être le plus beau de son histoire.
Oui, ne parlons pas tout le temps de légende napoléonienne, on a déjà écouté Béranger. Voici un film assez drôle, La route Napoléon de Jean Delannoy, où Pierre Fresnay joue un entrepreneur de tourisme qui décide d'exploiter la route Napoléon, c'est-à-dire la traversée des Alpes, un peu clandestine tout de même, que Napoléon, depuis Port-Fréjus, il y était arrivé après Portoferraio, a entreprise en 1815. Pierre Fresnay qui fait valoir aux habitants du cru, qui s'esbaudissent les vertus de rappeler le retour de Napoléon.
Quand il se penche au balcon de M. Blaise et qu'il entend monter le chant d'amour de cette vaillante population où vous comptez tous des ancêtres, alors l'empereur s'écrie « Bléau bourgeois, je suis content de vous
oh, !» Ça, je l'avais entendu dire.
Ah, moi aussi, je sais bien.
Mais il y avait une chose qui le chagrinait, Napoléon. C'est qu'il avait dit « L'aigle volera de clocher en clocher. » N'est-ce pas, monsieur l'instituteur? C'est qu'à Bourg-sur-Bléone, il n'y avait plus de clocher. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Cambronne, il puise dans la cassette impériale une somme, il va la porter à la mairie. Monsieur le maire, déclare Cambronne, l'empereur ne veut plus que ses fidèles bléobourgeois aillent à la messe à Maligé.
Et toc, ça c'est cogné.
L'empereur veut que vous bâtissiez une église qui perpétue son passage parmi vous. N'oubliez donc jamais, ajoute Cambronne, que vous devez un temple à l'Empire. Et un clocher au ciel où s'est inscrit le vol triomphal de l'aigle.
Tu parles, la bourse n'était pas pleine, il dormait parfois dans un fauteuil, c'était la traversée d'un clandestin qui tentait un coup d'État.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, s'il passe par la route des Alpes, qui n'est pas la plus simple à emprunter, il aurait pu passer par le Rhône, c'est parce que lorsqu'il est parti un an plus tôt pour l'île d'Elbe, il a failli être lynché dans le Rhône. Donc il sait très bien que les Français ne l'attendent pas en 1815. Et il revient porté par une partie de l'armée. Une partie restera fidèle à Louis XVIII, mais une autre partie, notamment tous ceux qui ont été réduits à la demi-solde, vont le soutenir. Donc il est réellement porté par l'armée, et le coup d'État qu'il n'avait pas fait 15 ans plus tôt, lorsqu'il avait pris le pouvoir au 18 Brumaire, il le fait là en 1815. Mais à mesure qu'il avance et qu'il ne rencontre pas de résistance parce que les soldats baissent les armes quand ils le voient, eh bien, vous savez, c'est comme une boule de neige. C'est-à-dire que la sauce prend et il arrivera en triomphateur sans avoir tiré un seul coup de fusil à Paris.
Alors les défenseurs des libertés, là il y en a quelques-uns parmi nos auditeurs, attendent le parallèle avec le retour de 1958. Est-ce que le général de Gaulle a tenté un coup d'État? Est-ce qu'il a tenté un coup d'éclat? Alors rappelons que les Français en 1956 n'attendaient pas le général de Gaulle.
Non. Non, il était, les sondages le montrent, il était oublié, la France avait beaucoup changé depuis la fin des années 40. C'est un pays qui était en plein bouleversement déjà à ce moment-là, dans les années 50.
Vous dites, la France décolle, elle ne veut pas vivre encore plus longtemps dans l'expiation de ses péchés à laquelle le condamne la présence de celui qu'il a sauvé.
Oui, parce que de Gaulle est un rappel du passé, de ce qui s'est passé notamment en 1940. Et de ce fait, il entretient la mauvaise conscience vis-à-vis du passé national. Or, la France des années 50 est une France qui regarde vers l'avant. C'est la France qui idolâtre Servan Schreiber, François Sagan, François Giroud. Donc, pour qui tout ce qui est jeune est mieux, tout ce qui est vieux est moins bien. Et rappelle un passé qu'on veut oublier.
Vous avez dans votre bibliographie un livre que vous avez raison de citer, c'est De Gaulle à la plage.
La bande dessinée
extraordinaire, voilà. Inspirée des carnets de l'attaché militaire de Gaulle à Colombelles. Oui. Le général, il est condamné à jouer à la plage, à diriger des jeux de plage.
En même temps, vous savez, il a la certitude que le régime de la 4e République se brisera un jour ou l'autre sur une crise quelconque. Donc il ne perd jamais l'espoir de reprendre le pouvoir un jour ou d'être rappelé, comme il le dit. Et l'Algérie, sur laquelle va se briser la 4e République, qui par ailleurs n'avait pas si mal réussi dans les autres domaines, va lui offrir cette occasion. Et là, on peut dire qu'il y a eu effectivement un coup d'État. Parce que il y a eu un complot gaulliste à Alger, qui certes n'a pas bien tourné parce que la prise du gouvernement général et la formation d'un comité de salut public n'était pas prévue.
Alors les circonstances sont très tragique, vous nous permettez encore une note d'humour. Nous sommes dans le film de Serge Moati avec, dans le rôle de De Gaulle, Patrick Chenet. Mais d'abord, l'annonce, c'est ça, elle a eu lieu réellement à la radio nationale de...
Ici Paris, radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour vous présenter une émission spéciale du journal Parler.
Eh bien, Pompidou, comme ça qu'on vous apprend à conduire dans la finance?
Une urgence, mon général. Impossible de téléphoner, trop délicat.
Je descends. Alors, Pompidou, cette urgence...
Cet après-midi, Coty va faire lire un message aux assemblées. Il menace de démissionner si vous n'êtes pas investi par les chambres. Il veut vous voir avant ce soir. Il faut que nous partions, mon général.
Maintenant? Je ne peux pas attendre une heure.
Je ne crois pas, mon général.
Dommage, j'avais des joues de bœuf à déjeuner. Vous aimez les joues de bœuf, Pompidou?
De Gaulle arrive à l'Élysée avec ses conditions. Pas de débat sur son investiture et un an de plein pouvoir.
Bonjour, monsieur le président de la République.
Bonjour, mon cher général. Bonjour. Alors, ça y est, vous allez pouvoir le faire, votre 5e République.
Monsieur le président, je ne suis même pas à la tête de la 4e.
Pure formalité, mon général.
Alors attendez, Patrice Guénivet, tout avait été prévu, sauf le temps de cuisson de la joue de bœuf à la boisserie à Colombelles-les-Deux-Églises.
Il semble bien. Mais oui, il attendait. On n'a jamais su dans quelle mesure il était au courant C'est le genre d'affaire où on n'écrit pas.
Tout
est dans l'art d'exécution.
Le demi-mot.
Il était bien entouré, puisque, vous savez, les gaullistes de cette génération avaient fait leur classe dans la clandestinité au moment de Londres ou dans la résistance. Donc, ça va très bien s'entendre à demi-mot sans qu'il y ait de consigne écrite. Il est probable que De Gaulle laissait faire tout en sachant ce qu'on faisait, mais sans vraiment l'avouer, etc., etc. Mais l'affaire a été très bien montée. On peut penser que c'est un coup d'État bien mieux exécuté que celui de Bonaparte en 1799.
Je vous laisse cette conclusion.
Et De Gaulle intervient au dernier moment. Il entre en lice quand, au fond, tout est joué et que dans le régime, eh bien, on commence à se dire qu'il est la seule carte. Et Coty a joué un rôle tout à fait décisif. Et on peut penser que Coty ne croyait pas lui-même à la survie des institutions, puisqu'il lui avait fallu 13 tours de scrutin pour être élu président quelques années plus tôt.
Cette appréciation que vous venez de faire sera entendue par ceux qui, partisans ou regrettant l'Algérie française, n'ont pas pardonné à De Gaulle sa cruauté, ses abandons, ses propos qui, dites-vous, serrent le cœur quand on les lit dans les confidences qu'il faisait à son jeune ministre de l'Information, Perfitte. Mais l'Algérie dans tout ça, qu'est-ce que c'était le rapport de Gaulle à l'Algérie? Il considérait que le plus important c'était le livre de l'histoire de la France et que s'il fallait tourner la page de l'histoire coloniale, on la tournait.
Voilà, et puis il faisait partie d'une droite qui n'a jamais été colonialiste. Après tout, le colonialisme a longtemps été une valeur républicaine de gauche, Jules Ferry, etc. Et De Gaulle n'a jamais communié là-dedans. En plus, il avait de mauvais souvenirs d'Algérie, parce que pour lui, Alger, c'est 1943, une population plutôt vichiste. Quant aux Harkis, il ne les considérait pas comme des Français. Il ne croyait pas à l'idée d'une intégration de la population musulmane algérienne. Donc, certes, ça a été un crève-cœur, sans doute, de sacrifier ce qui était le dernier fleuron de la puissance française dans le monde, mais en même temps, c'est quelque chose dont il a fait son deuil assez simplement et assez cruellement. Parce qu'après tout, les Harkis ont été désarmés et livrés aux vainqueurs en Algérie. Les rapatriés ont été rapatriés dans des conditions très, très difficiles. Donc effectivement, il y a dans les conseils des ministres de 1962 des scènes qui font mal au cœur.
Alors là, vous vous hasardez à des jugements. Vous nous dites quand même que l'histoire actuelle est contaminée par la morale. Y a pas mal de jugements chez vous. Certains sont quand même injustes quand vous expliquez que le président de la République sortant en France est le plus médiocre de nos présidents, hormis Paul Deschanel. Moi, j'aurais envie d'ajouter, pour défendre mes couleurs, le président Lebrun, par exemple.
Oui, encore que Lebrun avait quelques mérites dans les circonstances extraordinairement compliquées qu'il a dû affronter ou qu'il n'a pas pu affronter. Mais ce que je veux dire par l'histoire envahie par la morale, c'est autre chose. C'est qu'au fond, aujourd'hui, on traite l'histoire comme une affaire de morale, le bien, le mal, le bien d'un côté, le mal de l'autre. C'est-à-dire que ce qui se perd, c'est le sens de la complexité de l'histoire. Et par exemple, si vous voulez juger Napoléon et De Gaulle, vous ne pouvez pas le faire à l'emporte-pièce. Parce que ce sont deux histoires extraordinairement compliquées qui demandent de la nuance. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a forcément du mal dans les deux histoires, parce qu'après tout, le grand homme porte en lui une part de démesure, même lorsqu'il a la vertu de De Gaulle et son sens de la mesure, mais il y a quand même une part de démesure qui s'inscrit du côté du mal plutôt que du bien. Et c'est ça simplement que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on réduit l'histoire à une leçon de morale avec les méchants d'un côté, les bons de l'autre.
Todorov, dont on rediffusera un entretien à la morge de l'histoire demain, après sa disparition, disait « Il y a la lucidité devant le mal, c'est nécessaire. Refuser la tentation du bien, avec un B majuscule, c'est aussi nécessaire. » Bon, mais cette rencontre que vous tentez, place des héros, maintenant, vu l'état du pays, à vous lire, en moraliste, la dégradation générale de la politique. Écoutez, elle ne peut plus avoir lieu qu'au cimetière des héros.
C'est possible. Il y a deux choses. La première chose, c'est que la société a beaucoup changé. On n'est plus dans une société verticale comme au temps de De Gaulle. Et probablement, les Français d'aujourd'hui auraient beaucoup de mal à supporter un grand homme qui referait momentanément leur unité. D'un autre côté, la France est un pays traditionnellement et depuis toujours si divisé qu'il n'a jamais pu faire son unité qu'en se reconnaissant dans une figure qui rassemblait ses différentes composantes. Donc à la fois une société sans doute peu favorable à l'apparition d'un sauveur ou d'un homme providentiel, et d'un autre côté, l'attente, la demande continue d'exister.
Oui, mais ça c'est un homme de droite qui dit ça. Il y a un grand intellectuel italien, Norberto Bobbio, qui savait ce que c'était que le fascisme pour y être passé, qui est passé ensuite à gauche, et disait « L'homme de gauche, c'est celui qui recherche ce qui est commun entre les hommes, et l'homme de droite, c'est celui qui recherche ce qui est singulier. » C'est votre cas.
Oui, mais en même temps, De Gaulle et Napoléon ont toujours recherché, ont cherché à fonder leur pouvoir sur ce qui était commun entre les Français de leur époque.
Napoléon et De Gaulle, aux éditions Perrin, c'est le dernier livre de Patrice Guénifet. Cette émission a été réalisée par Valérie Aestaraï, l'équipe de La Marche de l'Histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin, Claire Milan et Ilinka Negulesco. Le programme de Mathieu Vidard, non sans avoir salué notre technicien Éric Morin. C'est fait, vous avez la parole donc Mathieu.
Merci Jean Lebrun, la tête au carré dans un instant pour parler de ces algorithmes qui transforment les sciences et la société.